C'était le journal d'Angélique Bouin. Nous partons en Ukraine dans un instant.
RAI GR1.
Voice of Nigeria, Lagos.
Programa Radio России.
Ici Radio Canada.
BBC Radio 2.
Bonsoir à toutes et à tous. Le témoignage d'une femme en prison à Téhéran, Mernouche Solouki, sera notre invitée tout à l'heure. Cette documentariste a passé plus d'un mois derrière les barreaux à Evin pour s'être intéressée à un massacre d'opposants au régime iranien. Le courage d'une autre femme, l'Algérienne Asna El Becharia, elle a bravé tous les interdits pour jouer une musique réservée aux hommes, le gnawa, très répandu au Maghreb. D'abord, nous partons en Ukraine. Camille Manière, bonsoir.
Bonsoir, Franck.
Vous avez enquêté sur l'une des périodes les plus sombres de l'histoire ukrainienne, la Shoah par balle. Reportage dans un instant. Nous irons aussi en Serbie, un groupe de reggae d'extrême gauche, en Somalie, où est né l'auteur de l'hymne du mondial de football en Afrique du Sud, et en Algérie, le fléau de la corruption dénoncé par la presse algérienne. Bienvenue.
Et pourtant elle tourne, saison 4, Franck Matheson.
Pour aller là-bas, il faut reprendre la route de Lviv et au bout d'un kilomètre et demi, vous tournerez à gauche en direction du bois. Demandez aux gens là-bas, c'est un endroit connu. C'est là qu'on abattait le bétail dans l'ancien temps. Maintenant, ce sont des jeunes qui habitent là-bas. Ils ne savent plus ce qui s'est passé. Mais demandez aux vieux de vous montrer où on a tué les juifs. Eux, ils seront.
Lysinichi, Ukraine, à côté de la frontière polonaise, dans le secteur de Lviv. C'est tout près d'ici. En 1941, que les troupes allemandes sont entrées en Union soviétique, l'occupation du territoire ukrainien va durer 3 ans. 3 ans pendant lesquels entre 1 million et 1,5 million de juifs vont trouver la mort. On célèbre aujourd'hui le 65e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, mais l'extermination des juifs, c'est aussi ce qu'on appelle la Shoah par balle. Camille Manière, vous êtes revenue sur les lieux des massacres nazis en Ukraine. Vous avez enquêté sur le rapport complexe que le pays entretient avec ce passé. D'abord, il faut rappeler qu'on trouvait en Ukraine l'une des plus importantes communautés juives d'Europe.
Oui, si l'on suit au dernier recensement réalisé par le pouvoir soviétique, c'était avant l'occupation allemande, en 1939, la région hébergeait avant-guerre donc la plus grosse, la deuxième plus grosse communauté juive d'Europe, soit 1,5 million de juifs qui vivaient dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, mais qui faisait partie à l'époque de l'URSS. À ce 1,5 million, il faut ajouter des centaines de milliers de juifs polonais qui ont fui la guerre et les massacres nazis dès 1939. Et qui sont retrouvés pris au piège en Ukraine après le départ des troupes allemandes en 1944. Après l'occupation, il ne restait plus dans la région que quelques centaines de juifs. En fait, bien avant la mise en place des camps de la mort, les nazis avaient un but très clair dans la région. Il s'agissait de nettoyer cette Europe de l'Est de ces juifs. Et c'est ce qu'ils ont fait ici même dès 1941.
Et le vieil homme qu'on a entendu tout à l'heure a été le témoin d'un de ces massacres.
Il s'appelle Meron Bedri, il a 89 ans, il a vécu toute sa vie dans une petite maison du village de Lysinichi, tout près de Lviv, c'est là que je l'ai rencontré. Mais Lysinichi, c'est aussi le nom d'une forêt que l'on voit d'ailleurs depuis les fenêtres de Meron, une forêt où entre 41 et 43, près de 100 000 juifs de la région de Lviv ont été exterminés.
Avant la guerre, un tiers de la population de Lviv était des juifs. Mais quand les Allemands sont arrivés en 1941, ils les ont tous rassemblés, ils les ont emmenés ici, dans les bois, et ils les ont tous fusillés. J'ai vu les convois de gens qu'on amenait dans la forêt. Et quand on allait au village, on entendait le bruit des mitrailleuses qui ne s'arrêtaient jamais et les cris des gens qu'on assassinait. L'autre souvenir, c'est en 1943, quand les Allemands sont revenus, ont rouvert les fosses et ont brûlé les corps pour effacer les traces de ce qu'ils avaient fait. C'était interdit pour nous d'aller là-bas, mais je me souviendrai toujours de l'odeur terrible des cadavres brûlés. Ça puait vraiment. Il y avait cette fumée partout et les flammes immenses qui brûlaient jour et nuit dans les bois.
Et nous voilà à présent dans ces forêts, les bois de Lysinichi, où vous nous emmenez, Camille, sur les indications de Meron Bedri, qu'on vient d'entendre.
Oui, exactement. Et en demandant de l'aide à un voisin, j'ai finalement pu retrouver le lieu exact où ont eu lieu ces massacres. Sur place, On est au milieu d'une forêt de bouleaux, un sous-bois vallonné avec des feuilles mortes au sol et au centre, une grande saignée dans le sable. C'est là qu'on a creusé dans la terre meuble pour y jeter les corps des victimes de ces fusillades. L'impression est d'autant plus forte qu'à la surface, on ne voit plus rien d'autre qu'une grande décharge sauvage. Les gens du village ont pris l'habitude de venir jeter leurs ordures à cet endroit même.
Oui, rien n'indique l'histoire du lieu, en fait.
Non, rien ou presque. Il y a bien une petite croix plantée dans le sol, mais en fait, elle rappelle la mort de soldats italiens qui, eux aussi, ont été fusillés ici. Rien, en tout cas, pour les dizaines de milliers de victimes juives, sauf une plaque avec des inscriptions en hébreu, mais cette plaque, elle a été arrachée, déchirée, et en cherchant dans les feuilles mortes, on en retrouve les morceaux éparpillés sur le sol.
L'oubli, Alice Nitschi donc, mais d'autres lieux s'efforcent de préserver la mémoire. C'est le cas dans la petite ville de Slavuta, où vous nous emmenez à présent, Camille. Vous avez assisté là-bas à la fête juive de Hanouka en décembre dernier. À Slavuta, nous sommes plus à l'est, au cœur en fait de ce qu'on appelle le Yiddishland. C'est cette région à cheval entre la Pologne, l'Ukraine et la Biélorussie où vivaient, Camille, des millions de juifs avant la guerre.
Oui, à Slavuta par exemple, 80% de la population était juive en 1939. Et après la guerre, ils étaient moins de 100 à rester. Ceux qui n'avaient pas pu fuir ont été fusillés dans plusieurs endroits, dans des fosses creusées à même le sable ou dans les forêts autour de la ville. Mais ici, il y a des monuments qui ont été érigés. Nous visitons l'un d'eux en compagnie d'Edwin Sokolov, l'un des rares juifs qui vit encore aujourd'hui à Slavuta.
Cet endroit, on l'a appelé le champ du souvenir. Sous le sable sont enterrés 14 000 juifs qui ont été abattus pendant l'occupation allemande. Et ce monument, on n'a pu le construire que dans les années 80, avec la perestroïka. Mais avant, il n'y avait rien, et les gens du village venaient ici, sur les tombes de milliers de juifs, pour prendre du sable et construire leur maison. Et pourtant, je me souviens que quand on venait ici dans mon enfance, on trouvait des os et des dents dans le sable. On dit que quand ils ont exterminé les juifs ici, ils jetaient dans les fossés les corps morts ou vifs, et que la terre a bougé comme si elle était vivante pendant plusieurs jours. Ici, au sommet du monument, il y avait une grosse cloche, mais des gens d'ici l'ont volée.
Oui, il faut dire que construire en Ukraine des monuments à la mémoire des victimes de la Shoah, c'est vraiment un combat, hein. Un combat pour la mémoire que mène depuis très longtemps David Goskis, un homme que vous avez rencontré, Camille.
Je l'ai rencontré chez lui, à Slavuta, donc. Lui aussi est très âgé. Il a été envoyé au front en 1940 dans l'armée rouge. Et c'est ça qui l'a sauvé, en fait. David a perdu 23 membres de sa famille pendant l'occupation allemande ici à Slavuta. Et depuis son retour dans sa ville en 1945, il a en fait consacré sa vie à comprendre ce qui s'était passé pendant son absence, à retrouver les lieux de massacre et à y construire des monuments.
Autour de Slavuta, on a construit 17 monuments sur mon initiative, dans 17 endroits où l'on a exterminé des Juifs. Et aussi longtemps que ma santé me le permettra, je les visiterai régulièrement. Mais la plupart sont mal entretenus, envahis par l'herbe ou même vandalisés. Le problème, c'est qu'ils ne font pas partie de la mémoire collective et qu'il n'y a plus de juifs pour s'intéresser à eux. Par exemple, dans le village de Krasnostal, avant la guerre, il y avait plus de 1000 juifs. Et tous ont été fusillés. Alors il faut bien que quelqu'un s'en occupe de bâtir des monuments. Qui le fera si je ne le fais pas? Il faut le faire pour que par leur simple présence, ces lieux de mémoire empêchent d'oublier l'Holocauste, pour que les gens d'ici sachent ce qui s'est passé sur leur terre.
Alors cette question des lieux de mémoire est bien sûr fondamentale, Camille. L'Ukraine a tendance à fermer les yeux sur cette période douloureuse de son histoire.
Oui, à titre de comparaison, c'est un peu, on pourrait dire, comme si les camps d'Auschwitz ou Treblinka avaient été progressivement effacés, oubliés par la mémoire collective et qu'on avait construit à la place, par exemple, des supermarchés. Ailleurs, ça paraîtrait inimaginable, mais en Ukraine, au-delà de Lysinitchi et de Slavuta, il y a des centaines de lieux d'extermination oubliés, comme ça. La Shoah par balle a frappé dans toutes les villes, tous les villages où vivaient des Juifs.
Et c'est ce que vous a expliqué, Camille, à l'historien ukrainien Boris Zabarko.
Ce que nous enseigne l'étude de la Shoah en Ukraine, c'est que l'Holocauste n'a pas eu lieu seulement dans les camps d'extermination, dans des lieux délimités, mais qu'ici, il s'est déroulé de manière diffuse et généralisée. Il a touché directement une quantité énorme de personnes. Ceux qui ont perpétré les massacres, ceux qui les ont subis, les victimes innombrables, et la multitude de tous ceux qui ont vu et su ce qui s'est passé. Dans les camps de la mort, les massacres ont eu lieu derrière les murs à l'insu de tous. Mais la particularité de la Shoah en Ukraine, c'est que la solution finale a été appliquée littéralement sous les yeux des habitants des villes et des villages. Et c'est ça qui rend l'épisode d'autant plus douloureux pour les Ukrainiens. Ils ont vu de leurs yeux ce qui se passe quand un peuple, au mépris de tout principe moral, décide d'en exterminer un autre.
La mémoire de la Shoah par balle en Ukraine, c'est notre dossier du jour dans Et pourtant elle tourne avec Camille Manière en direct de Kiev. Cet historien, Boris Zabarko, qu'on vient d'entendre, est lui-même un survivant de la Shoah par balle, Camille.
En effet, il est issu d'une famille juive ukrainienne et il fait partie des rares survivants du camp de concentration de Vinnytsia dans l'ouest ukrainien, là encore. Il y a d'ailleurs perdu la plupart des membres de sa famille et c'est seulement à la fin de l'époque soviétique qu'il a pu commencer ses recherches en tant qu'historien sur l'Holocauste en Ukraine, des recherches qui l'ont conduit à publier par la suite 3 recueils de témoignages de survivants à travers toute l'Ukraine.
Et des recherches qui ont permis à l'Europe de l'Ouest de mieux connaître la Shoah par balle, une période souvent négligée, c'est vrai, dans les manuels d'histoire. D'ailleurs, ceux qui travaillent sur le sujet en Ukraine, Camille, sont souvent confrontés à une forme d'indifférence.
Oui, même si aujourd'hui des personnes comme Boris Zabarko refusent de parler de tabou, c'est vrai que jusqu'aux années 80 en URSS, le sujet de l'Holocauste était passé sous silence. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sous Staline, l'URSS a connu une très forte vague d'antisémitisme et le génocide juif est passé au second plan, en fait, derrière l'exaltation de l'héroïsme de l'armée rouge qui avait terrassé les nazis.
Le tabou, hein, nous on va se permettre d'employer le mot, le tabou est aussi lié aujourd'hui au rôle que les Ukrainiens ont joué pendant cette période.
Et derrière le malaise, il y a bien sûr un gros non-dit, celui de la collaboration de certains Ukrainiens à la Shoah, une collaboration que l'on retrouve dans de nombreux pays occupés. La France en sait quelque chose, mais l'Ukraine d'aujourd'hui, on pourrait dire, c'est un peu comme la France dans les années 50. On insiste sur la responsabilité des seuls Allemands dans les massacres. On glorifie ceux qui ont résisté, ceux qui ont sauvé des Juifs, et on préfère ignorer la réalité historique de ceux qui ont fermé les yeux, ou même de ceux qui ont participé au massacre. Boris Zabarko.
On ne veut jamais rouvrir les pages sombres de notre passé, ce n'est agréable pour personne. Et c'est d'autant plus désagréable pour les personnes qui en ont aidé d'autres à exterminer les Juifs. Un peu partout vivent toujours des gens qui ont participé directement à des actes antisémites. Bien sûr, ça complique les choses. Il y a un musée sur le massacre de Babi Yar à Kiev, où sont morts près de 100 000 juifs. Il faudrait que l'on soit prêt à parler non seulement des victimes innocentes et de leurs bourreaux nazis, mais que l'on aborde aussi le rôle de ceux qui les ont aidés. C'est-à-dire poser la question de la collaboration des Kieviens, des nationalistes ukrainiens et de tous les autres. Ne pas parler de ça, c'est ne pas dire toute la vérité. Et c'est même pire que de mentir. Mais l'Ukraine actuelle est trop occupée à construire son identité nationale et beaucoup de gens ne voient pas l'intérêt de s'occuper en plus des problèmes des autres nationalités. Pour eux, l'histoire des Juifs en particulier et celle de l'Holocauste, c'est un problème secondaire, en tout cas pas des priorités pour la recherche historique.
Il faut dire aussi, Camille, que l'Ukraine est un pays jeune, hein, issu bien sûr de l'éclatement de l'URSS, et que le travail mémoriel a commencé il y a peu de temps.
C'est vrai que les Ukrainiens, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Viktor Yushchenko en 2004, veulent définir une lecture de leur histoire qui leur soit propre, qui ne soit plus imposée par Moscou, comme elle l'a été jusque-là, une histoire où le peuple ukrainien occuperait la place centrale. Et donc on met en avant la répression et les souffrances qu'ont subi les Ukrainiens. On les présente souvent comme des victimes des régimes successifs d'occupation polonais, soviétique, nazi. Et l'exemple parfait de cette tendance historique, c'est l'Holodomor, la grande famine de 1933-1934, qui a tué entre 3 et 5 millions d'Ukrainiens. Ces dernières années, l'État a consacré énormément d'efforts et beaucoup d'argent aussi pour ériger des monuments et faire reconnaître cet Holodomor.
Et ce drame a peut-être éclipsé la tragédie de la Shoah ?
Et en effet, il y a une sorte de concurrence mémorielle qui s'est installée pour les Ukrainiens. Holodomor, c'est leur holocauste, leur génocide. Et à force, un amalgame s'est installé et forcément, ça dilue la mémoire de la Shoah en Ukraine. C'est un peu comme s'il n'y avait pas assez de place pour deux souffrances, qu'il fallait n'en garder qu'une. Et puis, la mémoire de l'Holocauste aussi, avec en arrière-plan la question de la collaboration, on en a parlé, ça jette une ombre sur cette nouvelle histoire nationale que l'on voudrait plutôt tout noir ou tout blanc.
Alors, cette histoire pose la question de la place des Juifs et des autres minorités en Ukraine. Pour l'historien Anatoli Podilsky, il faut lutter contre l'image d'une Ukraine monolithique. Il dirige le Centre ukrainien d'études de l'Holocauste, une ONG reconnue à l'étranger, beaucoup moins en Ukraine.
C'est mon principal message. L'histoire de l'Holocauste en Ukraine, ce n'est pas seulement l'histoire des Juifs d'Europe au XXe siècle. C'est une partie intégrante de l'histoire et de la culture ukrainienne. Les Juifs ukrainiens exterminés à Kiev, à Babi Yar, à Lviv, Odessa, dans l'est ou l'ouest du pays, tous ces Juifs faisaient partie de la société ukrainienne. C'est ça l'Ukraine, un pays multiethnique. Babi Yar, c'est un moment essentiel de l'histoire ukrainienne au XXe siècle. C'est comme ça que je vois les choses. Mais je fais face à une autre approche. Celle des gens qui me disent « Oui, l'histoire des Juifs, de l'Holocauste, c'est une grande tragédie, mais ça ne nous concerne pas. Nous devons d'abord créer notre propre histoire. Nous devons connaître nos héros, nos combattants nationalistes. On n'a pas de place pour vous. Vous devez attendre avec votre histoire juive. C'est une grave, une très grave erreur. »
Et puis, il y a aussi un aspect de la question qu'on ne peut pas laisser de côté, Camille, c'est l'antisémitisme de la société ukrainienne.
Oui, alors c'est en quelque sorte une constante dans l'espace post-soviétique, mais c'est vrai qu'on ne peut pas l'ignorer pour expliquer ce malaise qui existe vis-à-vis de la mémoire de la Shoah en Ukraine. Mais si l'on prend le problème dans l'autre sens, par contre, l'absence de travail de mémoire, de débat public sur l'Holocauste, se fait aussi cruellement ressentir dans la société ukrainienne, puisque justement, ce travail de mémoire pourrait aider à tordre le cou à l'antisémitisme latent. En bref, donc, pour le directeur de la revue Ukraina Moderna, Andriy Portnov, l'Ukraine doit absolument se pencher sur son passé trouble et sur la Shoah, tout simplement, pour enfin pouvoir aller de l'avant.
Si l'Ukraine veut vraiment être un pays européen et trouver sa place dans la communauté européenne, il faut qu'elle comprenne que cela veut dire bien plus que réformer notre administration ou rénover nos gazoducs. Être européen, c'est aussi partager un ensemble de thèmes sur lesquels on a le même regard, la même approche. Et bien sûr, l'un de ces thèmes, c'est l'Holocauste. C'est l'un des fondements principaux de l'identité européenne après-guerre. Donc, si le projet de l'Ukraine post-soviétique est de faire valoir cette identité européenne, alors ce projet national doit intégrer l'Holocauste en Ukraine comme l'un des éléments dominants de sa mémoire. Il faut absolument que cela change.
Voilà, combattre l'oubli, la Shoah par Niar en direct de Kiev. Un dossier que vous pouvez réécouter ou podcaster après l'émission sur franceinter.com et pourtant elle tourne. Vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires, bien sûr. Et puis si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à deux livres, hein, deux très grands livres sortis ces dernières années. Les Bienveillantes de Jonathan Little et Les Disparus de Mendes.